Derrière les arbres se cache, dans les hauteurs des tournants de Sermentison dans le Puy-de-Dôme, le château d'Olteribe. Inscrit au centre des monuments nationaux d'Auvergne, cette maison forte médiévale qui surplombe le ravin du Lion a vu passer nombre de familles auvergnates de renom, mais aussi d'œuvres d'art et de collections en tout genre. Et si nous avons autant de traces d'art et d'histoire, c'est surtout grâce à un homme qui a fait don de ses biens et à qui on doit cet héritage. Et pour nous en parler, Sophie Grollet, chargée de communication des monuments nationaux d'Auvergne, nous emmène en visite.
Alors le château d'Olteribe est un château qui est mentionné pour la première fois en 1250. Il a été construit par la famille Chollet, le seigneur Chollet, et il est passé à plusieurs grandes familles de la noblesse auvergnate, comme les Chavagnac, la famille Lafayette, et puis la dernière grande famille qui a vécu ici était la famille de Pierre. Alors c'est pas vraiment un château qui est un château de défense, c'est un château de seigneur, tout simplement. Et c'est un château, en effet, où il y a eu beaucoup de vie, beaucoup d'amour, beaucoup d'histoires d'amitié. Le public, à chaque fois, est enchanté lorsqu'il visite le château et pénètre de salle en salle, parce que, évidemment, les guides vont expliquer la vie du marquis et de la marquise, mais la vie aussi de Georges Onselot, cette famille illustre de Clermont-Ferrand qui a vécu ici au domaine d'Olteribe. Et avec toutes ces belles histoires, cette transmission, ce mobilier, le public est emporté. Alors, le château d'Olteribe est en effet le château le mieux meublé de France dans la collection du Centre des Monuments Nationaux, puisqu'on dépend des Monuments Nationaux depuis 1954. Donc c'est vrai que les gens sont à chaque fois étonnés de découvrir les tapisseries, les meubles estampillés, les porcelaines, les tableaux de grands maîtres. Il est digne d'un château parisien. Alors c'est un château rempli de trésors, parce que la famille de Pierre était une famille de grands collectionneurs. Donc en 1954, lorsqu'il décède, il avait 83 ans, il n'a pas eu d'enfant, sa femme est décédée avant, en 1949. Ils ont fait le choix de tout léguer aux monuments nationaux avec cette collection unique en France. Alors le marquis de Pierre était un homme déjà généreux, parce que pour nous avoir légué une telle belle collection, on ne peut que le remercier, évidemment, j'en parle avec beaucoup d'émotion. Mais c'est vrai qu'on ne peut que le remercier. Ensuite, le marquis de Pierre était directeur des haras de France, donc il avait ce titre. Et il avait aussi des entreprises de champagne, donc aussi c'était un patron. Mais il a bien mené, toutes ses entreprises. Il aurait pu vivre de ses rentes, évidemment. Il y avait tellement de biens qui lui appartenaient, notamment le théâtre de la Madeleine à Paris. Il en était le propriétaire, mais il a préféré évidemment travailler. En tous les cas, un grand homme généreux, je crois qu'il faut retenir ça. En effet, le marquis de Pierre est important, mais derrière dans son histoire, évidemment, il y a son arrière-grand-père qui était donc Georges Onselot, le grand compositeur de musique, on surnommait autrefois le Beethoven français, et c'était son arrière-grand-père. Et dans les salles de visite, évidemment, le public va pouvoir découvrir son piano, ses portraits de lui, jeune homme, très jeune homme, à l'âge de 6 ans, et puis homme âgé, et puis toute une salle qui a été dédiée à cette famille avec un mobilier anglais.
Dans ce château, ce qui vous frappera, c'est la diversité des salles, de leurs couleurs, de leurs décors, de leurs objets. On vous laissera le soin de venir les découvrir par vous-même, car quoi de mieux que de les voir en vrai. Mais nous allons, avec Sophie Grollet, nous arrêter dans deux pièces majeures de la bâtisse. Deux salles qui racontent aussi bien le passé du château d'Olteribe que l'histoire du marquis et de la marquise de Pierre.
Alors là, on se trouve dans la grande salle de bal. On peut dire que c'est la pièce maîtresse du château. La grande salle de bal, autrefois, était beaucoup plus importante, parce que maintenant, c'est vrai qu'elle est cloisonnée par deux murs. Donc, elle faisait à peu près plus de 40 mètres. C'était une salle qui était immense. Derrière moi, on aperçoit cette immense cheminée qui est d'époque et qui chauffait cette salle. Donc, c'est vraiment la belle salle de bal où on recevait, on dansait. Et quand on aperçoit la grandeur de cette salle, on peut l'imaginer en tous les cas, lorsqu'on est tout au fond, on imagine qu'il y avait des fêtes monstrueuses ici au château d'Olteribe. Il devait y avoir, on festoyait en tous les cas ici au château. Au 19e siècle, eh bien, on va recevoir en plus petits comités. Donc on n'a plus besoin de ces grandes salles, on va les restructurer. Donc c'est vraiment l'époque aussi du 19e siècle et on va réduire ces grandes salles et les autres salles, eh bien, on va en faire eh bien, comme ici au château. Il y a une belle petite bibliothèque bleue, il y a une belle chambre, la chambre du marquis et de la marquise. Donc c'est vrai que c'était aussi l'époque et puis le romantisme du 19e siècle. Je pense qu'ils aimaient les couleurs, tout simplement, des choses gaies, c'était l'époque aussi. Donc c'est vrai que le salon rouge, la belle salle de bal où nous nous trouvons, alors c'est pas tout à fait rouge, hein, c'est plutôt framboise écrasée, on appelle cette couleur exactement. Et c'est vrai que de salle en salle, eh bien, le public pourra découvrir des pièces complètement différentes. On ne peut pas les mélanger. À côté, eh bien, évidemment, il y a le petit salon bleu, alors la couleur c'est vert d'eau rechampi de bleu, exactement. La chambre d'été, la chambre bleue un peu plus loin, le salon jaune, donc c'est vrai que c'est très gai. Et je pense que c'était évidemment le choix des propriétaires à l'époque, hein, de cette famille de Pierre qui était collectionneur et qui avait évidemment beaucoup de moyens, mais qui avait beaucoup de goût. On se trouve là dans la chambre d'été, c'était la chambre des derniers propriétaires du monument, le marquis et la marquise de Pierre, donc Antonia et Henri, et on est dans leur chambre. Donc jusqu'en 1949, ça a été leur chambre, puisque madame est décédée en 1949, et pendant 5 ans, eh bien, le marquis ira dormir dans une autre pièce, tellement qu'il avait du chagrin. C'est une grande histoire d'amour, tous les deux. Leur histoire d'amour commence dans l'Allier, à Vichy. Ils faisaient tous les deux la cure, tout simplement. Ils prenaient les eaux, comme on disait autrefois. Et le marquis avait une 40aine d'années. Donc c'est incroyable parce qu'à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, 40 ans, pas être marié, c'était quand même incroyable, rare, on va dire. Et la marquise venait de Belgique et elle avait 37 ans. Pas mariée non plus, comme si c'était attendu, en fin de compte. Je relève ceci parce que c'est quand même troublant. Il la rencontre dans les parcs de Vichy. Alors on peut imaginer avec sa belle robe, son ombrelle, son chapeau. Même l'été, en plein été, elles étaient habillées de cette façon-là. Et il l'entend tout de suite très amoureux. Il va se renseigner qui elle est. On lui explique qu'elle vient de la famille royale de Belgique. Il ne va pas se démonter. Il va y aller. Il va lui proposer l'opéra. Elle accepte, et pour être sûre d'être avec elle, que la magie de l'amour opère, il va acheter toutes les premières places de l'opéra pour être que tout seul avec elle, avec l'être qu'il va aimer pendant plus de 40 ans. Et la magie a fonctionné. Donc c'est une belle histoire d'amour. Ils se sont rencontrés en plus, voilà, c'est la rencontre que tout le monde souhaite. Ils n'ont pas eu d'enfants, donc c'est vrai que pour eux, ça a dû être un drame de vivre sans enfants. Et le marquis et la marquise se sont aimés jusqu'à la fin. Et en 1949, elle décède, elle le quitte ici, au château, hein, et elle décédera ici, dans ses murs, et bien le marquis a pris cette décision de quitter la chambre. Pendant 5 ans, il va la fermer. Même le personnel du monument qui entretenait les salles n'ont pas le droit de rentrer dans cette pièce. Et il ira dormir dans une autre petite chambre que le public découvrira. Donc c'est une belle histoire d'amour, c'est un gros chagrin évidemment qu'il a eu. Et c'est vrai que juste derrière moi, eh bien, il y a le portrait de monsieur dessiné par madame. Et à côté, on a trouvé ça intéressant d'exposer l'une des robes de la marquise. Comme s'ils étaient là, tous les deux, en permanence. Ils n'ont pas quitté le lieu.
Ce qui rend le lieu encore plus fascinant, c'est, vous l'avez compris, la passion d'Henri et Antonia de Pierre. Mais ce sont aussi leurs talents et leurs engagements qui vont changer la donne et faire d'eux un couple étonnant.
C'est une famille d'artistes, c'est une famille avec de la musique, avec de la peinture, avec de la sculpture. Et la marquise de Pierre aussi, qui elle peut-être, par contre faisait partie de la famille royale de Belgique, avait aussi ce talent de peindre, puisque le portrait qui se trouve derrière moi est dessiné par madame au fusain et à la sanguine sur papier. C'est un couple qui était particulier parce qu'en effet, c'est un couple qui était, on peut dire, peut-être un peu dérangeant, parce qu'à l'époque, ce couple s'occupait beaucoup des animaux. La marquise, dans les années 1920, va créer quand même la LPO, la Ligue Protectrice des Oiseaux, en France et en Belgique. Et tous les animaux qui étaient abandonnés, qui étaient maltraités, elle les recevait ici au château. Elle avait fait, on a des photos d'ailleurs, des enclos qu'elle avait fabriqués dehors dans le parc du château. Et dès qu'elle entendait parler d'un chien qui était maltraité dans une ferme ou malheureux, eh bien, elle prenait son carrosse, un petit billet, puis elle allait acheter le petit chien pour le ramener ici. C'était un havre de paix pour les animaux, un peu la SPA de la région. Et pour l'époque, c'était tout simplement pas possible. On sort d'une première guerre mondiale, il faut se remettre aussi dans le contexte. Donc c'est vrai que les gens les ont pris souvent pour des farfelus, et il en était rien. Ils étaient simplement beaucoup trop en avance pour leur époque. Ils étaient tous les deux végétariens aussi, hein, donc vous imaginez dans les années 20, végétariens, et s'occuper des animaux, c'était incroyable. Ils étaient en avance en tous les cas, très en avance pour leur époque, tous les deux. Parce que c'est vrai que lorsqu'il décède en 1954, il va s'endormir dans le salon vert, la première salle que nous visitons. Il a 83 ans, il attend son taxi, il doit partir à Menton. Il s'endort calmement, voilà, et il lègue tout aux monuments nationaux, avec toutes ses clauses. Donc le château doit être ouvert au public, donc on est toujours ouvert de janvier à décembre. Et il demande aussi la création d'une école d'ébénisterie au château. Alors c'est incroyable, parce que c'est très moderne pour l'époque, évidemment, de demander tout ça sur un testament. Et toutes les volontés du marquis ont été respectées par le Centre des Monuments Nationaux. Alors c'est unique, on peut dire unique en Europe, parce que avoir une école d'ébénisterie en Auvergne, sur le domaine, hein, c'est au château, c'est en face du domaine, dans les anciennes écuries où se trouve l'école. Les élèves ont 2 ans pour apprendre les diverses techniques de marqueterie, de restauration ancienne. Ils choisissent un meuble en salle de visite ou dans les réserves, et ils ont 2 ans pour l'étudier, le décortiquer et le présenter au moment de leur examen. Donc c'est une formation unique en Europe, et elle a été créée donc en 1999, et on est en 2023, donc ça fait 24 ans. C'était la volonté du marquis aussi, hein. Donc c'est ça, la transmission, le besoin de transmettre le savoir, mais la transmission aussi du patrimoine. Alors les élèves, eh bien, c'est des élèves qui viennent de la France entière, hein. Il y a une sélection qui est choisie par l'IFP de Bains. Il faut être par contre évidemment ébéniste ou menuisier en tous les cas. Il faut déjà avoir son diplôme, et c'est un bac plus 2. Donc ils ont 2 ans pour apprendre ces diverses techniques et de marqueterie. Mais c'est ouvert à tout public, c'est pas une école privée. Et 5 à 10 élèves, hein, sont retenus, évidemment les meilleurs dossiers, et la formation va durer 2 ans en alternance, hein.
Par son décorum, son environnement, son atmosphère, le château d'Alteryb se devait bien de récupérer un surnom à sa hauteur. Et voici le sobriquet que nous dévoile Sophie Grollet.
On le surnommait et on le surnomme toujours le château de la Belle au bois dormant, tout simplement, parce que c'est un château qui est évidemment aux portes du parc du Livradois-Forez, avec toute une végétation qui l'entoure. Alors là, il y a quelques arbres qui ont été évidemment élagués ou coupés parce qu'il y avait besoin. Mais il faut imaginer qu'il y a à peu près 30 ou 40 ans de cela, il était englouti dans cette végétation qui était très importante, très dense. Ce qui peut être perturbant, on va dire, quand on rentre dans les salles du château, c'est ce côté délicat, raffiné, qu'on retrouve de salle en salle. En fin de compte, à mon avis, c'est plus une ambiance et une atmosphère. Parce que le château extérieurement est simple, on va dire. Son architecture a été tellement modifiée au 19e siècle qu'il paraît il est plutôt rustique. Mais dès qu'on rentre dans les premières salles, on est sidéré par le nombre de tableaux, d'objets d'art, de tapisseries, de meubles. Et je crois que c'est la richesse et c'est cette ambiance qui est frappante.
Et encore, on ne vous a pas tout dit, pas tout montré. Pour connaître tout de ce château d'Alteryb qui se situe entre hauteur et rive, comme le rappellent les racines latines de son nom, il faut explorer les alentours. Son parc, sa chapelle, son étang, ses écuries, ou même le sentier du bénitier du diable. Avec autant d'arguments, il ne peut que justifier son titre de monument national.